chanteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur.
Bonsoir, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour une émission exceptionnelle à plusieurs voix, c'est très très intéressant, à l'occasion donc de la parution, qui est assez récente, on aura des précisions, d'un livre aux éditions Delga qui s'appelle, je vous lis le titre, « Quand la France s'éveillera à la Chine ». C'est déjà tout un programme. Et puis, c'est souligné, surtout titré par « La longue marche vers un monde multipolaire ». Alors là, on tombe plus dans un vocabulaire classique, désormais classique de la géopolitique. Donc, ça donne un autre éclairage. Et le dernier éclairage que je vous réserve, mais je ne peux pas le lire tel que, c'est en calligramme chinois « Servir le peuple », si je ne me trompe
pas. Mao, ce qui est sur la tombe de Mao.
Voilà, c'est du Mao, « Servir le peuple », vous connaissez.
C'est l'écriture de Mao.
C'est l'écriture elle-même de Mao.
C'est sa calligraphie.
C'est sa calligraphie, elle. Bon, voilà. Donc, vous voyez, une très, très large approche. Donc, Mao, « Servir le peuple », donc le programme de la révolution chinoise et du Parti communiste chinois. Et puis, un élément d'actualité, quand la France s'éveillera à la Chine, c'est ça qu'on va essayer d'éclairer, et puis la longue marche vers un monde multipolaire, là on est plus dans un vocabulaire traditionnel du Parti communiste chinois, puisqu'on glisse dans ce titre une longue marche, une autre longue marche, mais il n'y a pas qu'une longue marche dans l'histoire, celle du PCC est certainement la plus spectaculaire, la plus extraordinaire, mais après tout, d'autres sont en cours, alors pas avec un seul parti, pas avec un seul pays, on va y revenir abondamment. Et donc on va faire une émission un peu particulière puisque ce livre, donc très abondant dans son projet et dans son ambition, a été réalisé par 4 personnes sous la conduite de Daniel Blétrac qui est avec moi dans le studio de
Radio. On a travaillé assez égalitairement.
Assez égalitairement.
Oui.
Bon, voilà. Donc 4 signataires. Donc Daniel Blétrac qui est avec moi dans le studio de Radio Galère à Marseille, Marianne Dunlop, qu'on n'entendra pas, mais qui a joué un rôle certainement important dans la genèse.
Qui est pratiquement, qui a vécu très longtemps en Chine, qui a des enfants chinois et qui y va tout le temps.
Voilà, donc effectivement une connaissance.
Elle parle 12 langues et elle fait de la traduction simultanée en chinois, en russe, en turc, en coréen, etc. Voilà.
Donc voilà, elle sera absente, mais je pense qu'elle nous écoutera. Ensuite, deux hommes, un monsieur qui s'appelle Jean Julien, qui n'est pas très connu, je dois le dire, mais qui fait un remarquable travail, puisque vous découvrirez à travers les questions que je lui poserai que ce monsieur passe une bonne partie de ses journées sur Internet à décortiquer tout ce qui se publie d'important en Chine. Je ne parle pas du rap chinois, je parle de tous les textes importants qui viennent de l'État, des ministères, qui viennent du Parti communiste, du Conseil d'État, de l'université Fudan de Shanghai, de think tank, puisqu'il y a aussi des think tanks en Chine. Donc, il a un balayage très très important de toute la production politico-intellectuelle chinoise aujourd'hui. C'est assez rare pour être noté. Il le fait, et ça donnera l'envie à un certain nombre de nos auditeurs, il le fait en langue anglaise, puisque pratiquement tous les sites que j'ai cités, sans les énumérer dans le détail, ont tous une version anglaise. Le français est un peu abandonné, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Il n'y a pas que la Chine qui procède à ce genre de choix. Mais on a à travers lui une lecture de tout ce qui se publie d'officiel, puisque une université qui a un séminaire sur les relations internationales, elle publie sur son site, elle invite des étrangers, des conférenciers, etc. Et donc on a une vision très très complète du climat intellectuel chinois qui, et j'insiste là-dessus parce qu'il nous le redira, mais c'est très très important, le climat intellectuel chinois est extrêmement actif, D'une part, parce qu'il y a 100 millions d'adhérents au Parti communiste, et que donc là, c'est déjà un lieu de débat, quand on met 100 millions de personnes pour traiter d'un sujet qui est à l'ordre du jour du parti. Et puis, il y a des tas d'autres endroits où on réfléchit à la politique du Parti communiste chinois, y compris en ayant des critiques. Et puis, il y a des tas d'autres endroits où ce n'est pas les communistes, parce que vous savez qu'il y a aussi une deuxième... Il y a le Conseil d'État, ou plutôt le comité permanent, et puis vous avez à côté une assemblée qui donne la parole à ceux qui ne sont pas communistes. C'est important à savoir, dans la structure de la politique et de l'État chinois, il y a une structure où parlent et vont s'exprimer et sont élus des délégués des minorités religieuses, des délégués de groupes d'intérêt qui ne sont pas au Parti communiste. Donc ça s'appelait l'Assemblée populaire. Et donc on a une expression très très variée de cette vaste population. Et j'insiste là-dessus parce que je réponds peut-être un peu à l'avance à des critiques que vous ferez ou qu'on entend assez souvent, c'est-à-dire on n'a pas affaire du tout à un monolithe. Les monolithes de 1,4 milliard de personnes, ça peut simplement pas exister. Alors ça peut pas exister, mais on pourrait dire ça tire un peu dans tous les sens. Non, ça tire pas dans tous les sens. Il y a un projet commun. Quand la Chine s'éveillera, quand la longue marche sera en cours, c'est ça le projet commun. Et après, tout le monde peut apporter sa réflexion, sa contribution, qu'il soit d'une minorité religieuse, qu'il soit d'une minorité ethnique, parce qu'il n'y a pas que des Han, il y en a beaucoup des Han, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Vous avez des musulmans chinois qui ne sont pas des Ouïghours, par exemple, qui s'expriment en tant que musulmans chinois. C'est des Han qui sont convertis, on les appelle les Hui, c'est des Han qui sont convertis à l'islam. Bon. Et donc, tout ça trouve sa place dans cette espèce de concert, ce concert qui fait de plus en plus de bruit sur la planète, parce que quand il y a plusieurs centaines de millions de gens qui pensent, qui écrivent, qui discutent, ça fait un effet dont toute l'humanité a les réverbérations. C'est ça, au fond, le projet de Daniel Blétrac et de ses amis, mais c'est elle qui va nous l'exposer plus précisément. Voilà, la parole est à toi, Daniel.
Oui, alors... L'idée qui... tout est parti d'un blog que tu connais, qui est Histoire et Société, et qui produit sur quelques pays, la Chine, la Russie, Cuba, l'Amérique latine, tout un travail international. Mm-hmm. Mais je pense que l'originalité... De ce livre. Et là, dernièrement, je suis allée chez Berkoff, qui m'a dit qu'il n'avait jamais lu un livre comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est à la fois savant, qui apporte des éléments, etc., mais qui le fait à partir d'un projet politique. Mmh. Et ce projet politique, en gros, c'est le suivant. On pense que la situation française est préoccupante. C'est une litote. On est dans une crise profonde et pratiquement, ça va. Il y a une situation. Si on continue à aller, on va dans le mur, c'est le cas de le dire. Donc, on propose. Que la France change de roche et s'intéresse à ce monde alternatif qu'on baptise du nom des BRICS, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, pour tout dire, la première idée originale que nous avons, c'est l'idée que ce monde multipolaire n'est pas à venir. Il est déjà là. Et il est tout à fait contraignant. Je te donne, depuis le livre est sorti le 25 avril, et depuis cette date, je peux te dire en gros qu'il est intervenu plusieurs phénomènes, quoi, plusieurs problèmes importants. Tu as eu, si tu veux, le sommet de l'ACEAN avec la Chine et le Conseil de coopération du Golfe, 18 pays, milliards, plus de 2 milliards d'habitants et 22% du PIB mondial. Et il a créé une nouvelle architecture de coopération sud-sud, ce qu'on a appelé le triangle d'or. Toutes les réserves énergétiques, plus la puissance industrielle de la CAN, un marché de consommation de 700 millions, une puissance industrielle technologique, innovation, la Chine. Et elle crée un écosystème industriel. Bon. Tu as eu en même temps à Rio de Janeiro le 28 et 29 avril, et les ministres des Affaires étrangères se sont réunis, des BRICS, pour établir, retrouver le principe de la Charte des Nations Unies, rebâtir. Et enfin, tu as eu une affaire dans laquelle nous sommes directement mêlés, puisque les BRICS affichent une ambition climatique. C'est la présidence des BRICS aujourd'hui, c'est Lula. Et si tu veux, ils ont préparé la COP 70 en 2025 à Belém. Et donc, il y a toute cette réunion. Je pourrais en parler longuement. C'est un projet qui mêle des questions la forêt, les questions des peuples autochtones. Il y a beaucoup d'éléments. Et notre président a voulu jouer les malins, là, au milieu. Voilà. Trois affaires depuis que le livre est sorti qui montrent que partout, la Chine est là. Et aujourd'hui même, hier, lundi et mardi, on a eu le fameux sommet de Londres dans lequel la Chine et les États-Unis se sont rencontrés et ont préparé le terrain pour la question tarifaire de Trump, qu'a posé Trump. Donc, on pourrait intervenir là-dessus, rien que cette affaire est très importante, mais nous, ce que nous pensons, c'est que Trump, c'est un syndic de faillite. C'est-à-dire que un syndic de faillite est un syndic de faillite qui peut jouer sur ses alliés. C'est-à-dire que sa seule solution, c'est de monter sur ses alliés et les ruiner. Nous, en l'occurrence, mais aussi les Japonais, tout, etc. Les chiffres sont là. Bon, je ne vais pas vous accoubir de chiffres, mais ça date bien avant Trump. C'est-à-dire que ça part, y compris des Clinton, Obama et Biden sacrifient littéralement l'Europe, quoi. Bon, donc tu as dans cette affaire, nous n'avons aucun intérêt à rester dans cette affaire-là. Alors là-dessus, on fait ce livre pour faire connaître la Chine. Qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà. Et quand on essaie de connaître des gens, on va essayer de connaître cette Chine et en quoi ce qu'elle nous propose est crédible par rapport à ce qu'elle est, sa propre histoire, etc. Et donc, la partie que j'inaugure s'intitule « La Chine fait partie de notre histoire et elle part de textes méconnus mais extraordinaires de Marx, d'Engels et même de Lénine sur le déplacement du centre de gravité. Dès Marx voit, dès 1848, il dit « Ce qui se passe dans le Pacifique est plus important que ce qui s'est passé dans la révolution de 1848. Et il parle d'un déplacement du centre de gravité qui est lié à la ruée vers l'or et au fait qu'en même temps en Chine, il y a la destruction, enfin on tente de détruire, on n'arrive pas à détruire la Chine. Mmh. On ne peut pas parler, il y a une chose qu'il faut dire tout de suite, la Chine et l'Asie ne ressemblent pas à ce qui s'est passé en Afrique.
Non, évidemment.
On n'a jamais pu en finir avec les nations et les empires de l'Asie.
Tout simplement parce qu'ils nous précédaient de très loin.
Oui, mais on ne peut pas considérer... Et c'est toute la question du continent eurasiatique qu'il faudrait aborder. Donc, par rapport à ça, la Chine est un monde qui à la fois fait partie du Sud, comme les pays qui ont été colonisés, humiliés, etc. Mais en même temps, elle est toujours restée... porte et fermée et tenant sa propre son propre développement.
Donc c'est tout ça
que nous avons présenté avec Maria dans la première partie. Mm-hmm. Alors nous présentons la Chine avec le rapport à la Russie, à l'URSS, à tous ces pays. La Chine et les États-Unis. Et c'est-à-dire que nous montrons la Chine et nous, et nous montrons que ce monde-là, non seulement fait partie du nôtre, il est déjà là, il est incontournable. Il faut bien mesurer que nous sommes, Marx a dit une chose très juste, il a dit que ce que, en 1848, les révolutionnaires avaient gagné, c'est qu'ils avaient perdu leur illusion. Mmh. Eh bien, d'une certaine mesure, en ce moment, ce que nous sommes en train de gagner, c'est la perte de nos illusions sur le libéralisme, sur l'Occident comme phare de l'humanité. Et nous ne sommes pas en train de perdre nos illusions sur le plan idéologique, mais très concrètement. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à des choses que nous n'avions pas imaginées. Quand on voit Trump qui se conduit comme un maquignon, il fait simplement que continuer ce qui a déjà été entamé. Simplement, il y met une sorte d'âpreté. Et je pense qu'on pourrait revoir là tous les aspects, si tu veux, de cette manière. Et voir que, par exemple, nos hommes politiques sont complètement paumés, perdus.
Perdus.
Il y a quelque chose de navrant.
Alors, à ce propos d'ailleurs, parce que je tique un peu sur quand la France s'éveillera à la Chine, parce que j'ai quand même souvenir que c'est un certain Charles de Gaulle qui a dit à l'ONU et à la Communauté des Nations, il faudrait quand même que la Chine soit à l'ONU. La Chine populaire. Donc la France, là, elle avait bien mis le doigt à l'endroit où il fallait, en disant la Chine, c'est la Chine populaire, c'est pas Taïwan.
Donc, oui, bien sûr, voilà. Mais il y a toujours eu, alors tu vas voir dans les... Il y a toujours quelque part des bourgeoisies nationales qui... Mais le gros problème des bourgeoisies nationales, c'est que traditionnellement, elles ont quand même les communistes en ligne de mire. Et résultat, elles installent après elles un système qui noie les acquis de la bourgeoisie nationale. C'est le cas de Gaulle. De Gaulle a eu des pressions, une vision, etc. Mais il a installé la Ve République, il a installé les conditions de destruction de son propre système.
Sans aucun doute.
Voilà. Donc, c'est un peu le problème. Mais tu retrouves ça dans toute l'Asie centrale. Tu retrouves ça avec l'Iran. Tu retrouves ça dans les, avec sur la Turquie. C'est-à-dire qu'il va y avoir partout toute l'histoire de l'Asie. C'est l'histoire des bourgeoisies nationales qui cherchent une modernité. Comment, avec qui vont-ils la construire? Et si tu veux, là, il faudra parler du rapport avec l'URSS et tout ça,
sûr.
Comment ça s'est construit. Donc, il y a tout ça. Mais c'est énorme.
Donc, je posais cette question parce qu'effectivement, après De Gaulle, on a quand même chargé un Premier ministre qui ne l'était plus, Raffarin, de travailler uniquement sur les relations de la France et de la Chine. Donc, il y avait bien une curiosité qui était une curiosité bourgeoise, hein, faire des affaires avec la Chine, les comprendre, mais qui a été un peu particulière par rapport à d'autres pays. Est-ce que ça va être...
Je suis d'accord, mais il faut voir aussi
oui.
que tu as partout toute la bourgeoisie, tout le capital, tous les investisseurs, le voilà. terme est les investisseurs,
voilà.
actuellement,
voilà.
Sont tous, tu vois par exemple, moi je lis beaucoup Asia Times,
oui,
j'adore,
oui, bien sûr.
C'est les investisseurs de l'Asie. Et ben, ils font des analyses remarquables, hein, et, mais des analyses tout à fait remarquables sur le fait que ils voudraient peut-être mieux. Et c'est le cas, par exemple, tu as actuellement même le yen, même les Japonais, etc., qui passent leur temps à se dire, dans le fond, ben, il faudrait peut-être regarder de ce côté-là, c'est plus sûr que du côté de Trump.
Bien sûr.
Là, il y a une... C'est pas simplement les attitudes de Trump. C'est des faits. C'est-à-dire que le dollar baisse. Bon, ce qui est très bien pour le dollar. Mais d'habitude, quand le dollar baisse, les bons du trésor et les obligations montent. C'est-à-dire qu'on achète.
Bien sûr.
Mais là, non. C'est-à-dire que les grands investisseurs.
Il y a défiance.
Comme en particulier les Japonais et les Chinois n'ont pas acheté cette fois-ci les bons du trésor.
Ils en revendent.
Le crack,
ils ont
vendu.
Ils en ont
le
vendu.
Crack le crack est proche. Et donc, tu as partout, et tout au long de l'histoire, les capitalistes raisonnent d'une manière... Moi, j'aime bien lire les capitalistes. Ça m'intéresse souvent plus que les gauchistes. Parce que les capitalistes te disent la réalité. Et là, je pense qu'on va parler du socialisme chinois et de ce que ça donne et comment. Mais si tu veux, tu as dans la Chine à la fois un marché énorme.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on pense toujours à la Chine en train de fabriquer. Mais la Chine, c'est devenu un marché énorme. Et les capitalistes sont intéressés par ce marché.
D'ailleurs, les capitalistes français, j'en connais quelques-uns de nom, n'ont pas hésité quand Deng Xiaoping a ouvert la porte dans les zones
bien
économiques
sûr.
Spéciales à venir investir, hein, y compris en n'ayant pas la majorité
du
capital.
Raffarin, il se bat pour ça.
Raffarin, il servait à ça. Oui,
voilà.
Tout à fait.
Donc, tu as... il faut voir. D'ailleurs, là, on est devant des alternatives, mais là, plusieurs, d'ailleurs. Mais nous, on propose d'aller vers les BRICS, hein. On propose de rentrer dans ce système-là, mais pratiquement, il y a déjà des... Alors, ça serait important qu'on le fasse, nous. Et on verra pourquoi, par rapport à l'attitude de la Chine. Ça serait très important que les travailleurs, ceux qui se battent, etc., s'intéressent à la chose pour pas qu'on leur fasse un enfant dans le dos. C'est-à-dire que nos capitalistes continuent à nous trahir et à nous vendre, etc. Et après, disent c'est la faute à la Chine. Non. Donc, on en est là. Et je pense qu'on aurait l'occasion de beaucoup discuter là-dessus.
C'est vrai. Tu faisais écho tout à l'heure une espèce de changement d'alliance, hein, disant, mais tournons-nous vers les BRICS, après tout, la Chine et les BRICS. Mais en fait, est-ce que c'est politiquement possible aujourd'hui avec les carcans dans lesquels la France s'est mise et s'est enracinée? L'Union européenne est l'OTAN, ça fait deux carcans.
Je pense que ce que on ne voit pas,
oui, alors,
c'est que la Chine ne demande pas. Et les BRICS, rien ne demande un changement d'alliance ni de politique.
Oui, mais il y a zéro OTAN dans les BRICS.
Oui, certes. Ah. Mais la Chine... Alors moi, il est évident qu'il faut sortir de l'OTAN. Ça,
voilà. Non, mais voilà, c'est ça.
C'est évident.
C'est ça la question.
Mais la Chine ne nous le demande même pas.
Non, non.
Hein? Elle n'a jamais demandé à personne de changer d'allié. Elle ne fait pas comme les États-Unis qui exigent leurs alliés contre leurs intérêts. Non, c'est du gagnant-gagnant.
Tout à fait.
Et si tu rentres dans les BRICS, tu acceptes simplement des réflexions communes, oui, etc. Tu n'as pas, il faudra expliquer à fond ce qu'est chacun des systèmes proposés, tu vois. Parce que tu peux ne pas être dans les BRICS et rentrer dans le BRI, c'est-à-dire la route de la soie.
Oui, tout à fait.
Tu as différents moyens et tu as des alliances, y compris, qui peuvent se nouer de pays à pays. Chacun est libre. C'est un système d'une extraordinaire souplesse.
C'est pour ça que j'insistais à l'inverse de celui dans lequel on s'est mis.
Absolument, c'est
pour
rappelle, ça que...
Je rappelle le référendum de 2005, quand la France a dit « je ne veux pas être encore plus contrainte ».
Mais c'est pour ça qu'il faut
européen.
Y aller.
Ah. Allons jusqu'au bout de ta pensée.
Je dis que vous avez tous les avantages pour y aller.
Tout à fait. Ouais.
C'est-à-dire que vous avez, si vous allez là, ça vous permettra de négocier dans ces marchés. Là, par exemple, la CSN, ça vous permettra de négocier dans le cadre des pétroles, parce qu'ils sont arrivés à faire tous les systèmes pétroliers. Ça vous permettra de négocier avec, y compris, tout un monde pour la France qui était jadis le monde de l'Afrique, dans lequel elle sert désormais de supplétif aux États-Unis, eh bien, elle pourrait nouer des rapports gagnant-gagnant nouveaux, d'échanges, etc., etc., si elle rompait avec le carcan de l'OTAN, de l'UE, de ces carcans qui exigent de leurs adhérents. Alors, le cas UE est extraordinaire, puisque il y a une discipline qui n'est même plus respectant les adhérents. Il y a quatre GUS qui se réunissent et qui choisissent, et derrière une commission européenne qui n'est élue par personne,
voilà,
de prendre des dispositions qui sont à contrario des intérêts des peuples, sans les avoir consultés. Donc, c'est quand même un truc aberrant. Oui. Donc, tout ça fait que l'idée, les portes du livre... c'est que c'est déjà là. Et ça s'est réalisé dans un fait, quand Trump a décidé qu'il montait les tarifs douaniers à 145%, et tout le monde s'aidait à les négocier, etc., ce qui est une catastrophe. Même s'il augmente à 10 ou 20%, c'est grave. Bon, la Chine a été la seule à dire non. Et tout a changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que tout s'est recomposé à cause du nom de la Chine. Et Trump a été obligé de négocier.
Bien sûr.
Là, par exemple, on pourrait parler... Dans notre livre, on parle... c'est très marrant parce qu'on parle des États-Unis et de la Chine à partir de deux catastrophes Los Angeles et ce qui s'est passé en Chine. Et on montre la différence d'attitude.
Je souris parce qu'il y a une autre catastrophe en cours à Los Angeles.
Oui.
Qui n'est pas celle dont vous parlez.
Mais attends, et on annonce, j'annonce qu'est Los Angeles. Ouais. C'est-à-dire qu'attention, je suis persuadée, je vais te le dire, que c'est une entreprise de diversion dans laquelle Trump tente de faire oublier ses résultats catastrophiques à divers plans, le fait qu'il n'a rien obtenu et le fait qu'il n'arrive même pas à avoir une politique de l'immigration contre les gangs. Alors il attaque les travailleurs. C'est-à-dire qu'il a mis en prison quand même le responsable du syndicat des personnels de service. Et si tu veux, il n'arrive pas à attaquer. Il attaque les travailleurs. Il n'attaque pas les gangs. Les gangs sont déjà imbriqués dans leur système. Donc c'est tout ça qu'il faut voir.
Donc je voudrais, pour fermer ce chapitre-là, bien dire, vous avez l'idée de, il faut prendre le large. Hein, et moi je rappelle, oui mais il y a des amarres à couper. Je ne voulais pas dire autre chose. Hein, prendre le large c'est bien, effectivement c'est votre idée. Hein, mais les amarres à couper, elles ne sont pas inexistantes.
Oui mais elles se coupent en même temps. C'est-à-dire que... là, c'est le choix du livre aussi.
Oui, voilà.
Non, c'est-à-dire que, si tu veux, on est des marxistes et on pense que c'est en luttant qu'on a besoin de l'histoire.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a besoin de la véritable histoire et de changer la vision du monde géopolitique. D'accord. À partir du moment où les types refusent la politique qui leur est imposée, ils sont appelés à ne plus croire aux histoires qu'on leur raconte sur leur propre histoire. C'est un processus dialectique. Et donc là, je pense que nous sommes dans une fenêtre. Et c'est très important, parce que soit on termine comme aux États-Unis, totalement, avec une classe ouvrière tellement divisée, tellement éclatée, qu'il ne reste plus que le fascisme, soit on arrive à unifier le combat, et à ce moment-là, on aura besoin de véritables alternatives. Et on aura besoin de s'unir tous pour arriver à imposer un autre chemin. Parce que la phase 1, alors je termine là-dessus, la phase 1, ça a été, ça date, hein. Moi quand j'étais à Cuba, Fidel Castro l'avait déjà annoncé en 1983, cette phase-là. La phase 1, c'est la mise en place de ce monde multipolaire, avec de nouveaux rapports sud-sud. La phase 2, celle dans laquelle on est, c'est un affrontement de classe à un niveau beaucoup plus élevé. Et dans cette phase 2, l'affrontement de classe est à la fois un affrontement sud-nord, mais aussi à l'intérieur du nord et partout contre nos propres capitalistes.
Absolument.
Voilà. Donc nous sommes dans la phase 2.
Et nous sommes avec des gouvernements qui sont objectivement contre-révolutionnaires.
Absolument.
Quand la politique de Macron consiste à dire « je suis faible au niveau national et je reporte ça sur la Fédération européenne, je mets ma bombe atomique à la disposition de l'Europe qui n'en veut peut-être pas », mais c'est la fuite, c'est-à-dire que dans la mesure où le cadre national n'obéit plus, ne répond pas, on va ailleurs, mais on va dans la contre-révolution.
C'est une catastrophe. Voilà. Je donnais, par exemple, c'est les Chinois et tout le monde nous regardent comme des fous. quand tu as comme logique l'art et la manière occidentale de provoquer des guerres militairement, sans penser le moins du monde à l'issue politique que l'on cherche, c'est de la folie. Et pourtant, c'est ça ce qu'ils font.
Tout à fait.
Là, par exemple, ils sont en train de se lancer dans une guerre et ils n'ont aucun élément. Ils envoient des guerres par procuration après l'Ukraine, et qui était une guerre par procuration, où on a fait de ce peuple, on a vidé ce peuple pour diviser le continent européen.
Bien sûr.
Ce que nous dit la Chine aussi très clairement, c'est tant que vous lutterez, vous serez un continent européen divisé et se battant l'un contre l'autre, vous n'avancerez pas et vous serez dominé. Comme elle dit d'ailleurs à l'Inde, elle lui dit tant que vous resterez soumis aux Anglais et, à la, et que vous cesserez de transiger, vous n'avancerez pas. Xi Jinping a dit clairement à l'Inde, le facteur humain, vous ne le voyez pas. Or, ce facteur humain, il faut que vous vous débarrassiez des Anglais et de votre soumission. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes divisés. Nous avons un continent qui a été éternellement divisé. Le nazisme, ça consistait justement à aller vers une partie du continent et de l'attaquer. Et tant que nous en serons à cette division, comme les États-Unis sont actuellement dans une division, tant que nous en serons à ces divisions, nous ne pourrons pas nous en sortir et régler les problèmes très importants que nous avons devant nous, les problèmes climatiques, environnementaux, les problèmes de tout ce que nous avons. Ça suppose que nous dépassions notre subordination. Voilà. Et notre division multiple, notre art de nous diviser et de nous battre entre nous, au lieu de construire ensemble, comme il le propose, une communauté de destin, en respectant nos souverainetés et nos différences.
C'est clair.
Voilà.
Bon, ça, c'est bien que tu le rappelles, parce que la Chine, à aucun moment, ne regarde le régime politique. Elle dit, je passe des accords, on fait des choses
elle
ensemble.
Elle dit, alors c'est ça, d'ailleurs, plus loin que ça.
Je ne veux pas le savoir.
C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en mêle, même si on faisait les BRICS avec la Chine actuellement, il faudrait qu'on s'en mêle, parce que la Chine a une règle. Elle respecte partout les lois et le code du travail et tout des pays en question. On pourra donner des exemples de ce que ça donne, hein. Mais si tu veux, si elle a devant elle un pays comme le nôtre, où les droits syndicaux sont de moins en moins respectés, où on licencie, etc., ben, laissera faire. C'est pas son rôle. Elle n'intervient pas à ce titre-là. Donc, par rapport à ça, nous avons la nécessité, quand je dis que nous devons rentrer dans les briques, dans ce système-là, nous ne devons pas y rentrer en faisant confiance. Nous devons y rentrer en ayant un projet politique. Et on pourra discuter de ce projet politique. En particulier, Franck Marsal travaille sur ces questions-là.
On pourra. Donc, s'éveiller à la Chine, bon, c'était déjà fait, mais c'est de plus en plus nécessaire. Est-ce qu'on la connaît bien ? Enfin, je veux dire, là, on parle à des auditeurs, à une opinion plus générale. Est-ce qu'il n'y a pas des idées toutes faites ou fabriquées sur la Chine ?
Totalement.
Bah, est-ce que ce ne serait pas première marche de la démarche longue marche, c'est-à-dire bien comprendre ce que c'est que ce pays aujourd'hui et comment
totalement.
Il fonctionne ?
C'est-à-dire que d'abord, on ne mesure pas le rôle suzerain, le rôle de la Chine. Et je vais te donner un exemple par rapport à ça que j'emprunte à l'écriture. L'écriture chinoise est une écriture qui date, dont l'origine, c'est la seule qui en continue.
Bien sûr.
Vient de 4000 ans. Hein, et donc je donne le Ren, c'est-à-dire l'homme qui marche, on dirait un dessin de Giacometti.
Oui.
Bon, et il marche, et ça veut dire l'être humain, et c'est un des signes les plus anciens de chinois, ce qui prouve un certain humanisme d'ailleurs. Et la Chine donc part d'une langue, mais cette langue, suivant les provinces, suivant les provinces, est prononcée totalement différemment.
Tout à fait.
C'est l'écriture. Et il y a autre chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une langue diplomatique et de civilisation. Et par exemple, quand tu vois le Japon, pourquoi il s'appelle pays du soleil levant ? À l'est. Pourquoi il est à l'est ? À l'est de quoi ?
De la Chine.
De la Chine.
Évidemment.
C'est-à-dire le pays suzerain, le grand pays qui a régné sur toute l'Asie, etc., c'était la Chine.
Bien sûr.
Et elle a connu différents. Elle a connu des modes de production, des modes. Alors, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, parce que tu as, par exemple, il faut savoir que Confucius, par exemple, il est contemporain de Socrate.
Oui.
Et on connaît tous les descendants de Confucius. Et ensuite, pour être aussi... par exemple, tu as une thèse chez nous qui se rapproche un peu de la Révolution française. La Révolution française, dans l'an 2, disait le droit à l'insurrection. S'il y a un tyran... Eh bien, Mencius... qui date aussi Socrate, des Joues. Mencius a mis au point ce qu'on appelle le mandat divin. C'est-à-dire que l'empereur est le fils du ciel, bon, donc il est quelque chose comme le droit divin, mais si il est mauvais empereur, si ça ne va pas, on a le droit de le balayer. Oui, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut, s'il y a une catastrophe physique, etc., on peut considérer que le ciel est en colère et qu'il faut virer l'empereur.
D'accord.
Bon, donc il y a vraiment une capacité à comprendre que le citoyen, le paysan citoyen, joue un rôle, c'est-à-dire que, par exemple, c'est lui qui va construire la Grande Muraille. C'est des citoyens paysans on va construire cette Grande Muraille en 1700 ans. C'est-à-dire que pendant 1700 ans, on construit la Grande Muraille. Et avec des paysans, des soldats paysans qui sont des citoyens. C'est pas l'Inde. C'est un autre monde. Et c'est un monde avec une grande laïcité. On n'a pas idée, par certains côtés, alors ça a été tellement de changements, etc. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est-à-dire que les Chinois vous disent en gros, ils vous disent, écoutez, nous, on a 4000 ans derrière nous. On a tout essayé. On a une histoire, tout ça. On est une très vieille civilisation. On sait ce qui est bon pour nous. Et on sait comment notre rêve de rajeunissement actuel doit fonctionner. Alors, laissez-nous gérer. Et nous respectons votre souveraineté. Respectez la nôtre. Et donc, c'est toute une autre vision.
C'est ce qui ouvre le nouveau chapitre, c'est-à-dire
le choix
du communisme par ce pays, qui a tant d'histoire et qui a essayé, comme tu le dis, tellement d'autres régimes. Il dit maintenant, c'est ça qu'il faut que nous fassions. Et nous le faisons.
Absolument.
On a un régime communiste.
Oui, mais attends, c'est extraordinaire. Là, je voudrais dire quand même ce qui est... sur mon blog, il y a eu une interview superbe qui correspond aux débats qui ont lieu à Londres en ce moment.
Oui.
C'est le PDG de Huawei.
Alors, je précise, principale firme de construction de téléphone chinoise.
Absolument. Qui est Zhen Gui, qui est un grand... il dit, Il a été, ce qui est très important, il vient de faire une interview superbe, dans laquelle il explique, alors il y a des trucs que j'arrive même pas à comprendre ce qu'il raconte, il explique pourquoi des algorithmes mathématiques ont remplacé des points qu'il n'arrivait pas à trouver dans les semi-conducteurs. Et comment ? Alors, il fait une ode, alors complètement à la recherche fondamentale. Il dit laisser le temps. Quelquefois, il faut 25 ans pour qu'une recherche donner les moyens. Et il dit c'est ça le socialisme. Le socialisme peut se permettre d'accorder 25 ans de recherche à des gens qui apparemment. Et il montre comment. Alors, c'est absolument extraordinaire. Il leur dit nous devons comprendre et soutenir ceux qui font un travail théorique. Et quand tu vois la manière dont Trump, au contraire, attaque à la fois Harvard, pour deux raisons. La première, c'est qu'il en a après les Chinois. Ce n'est pas à cause des affaires juives, etc. C'est parce qu'il veut foutre dehors les Chinois. Et le deuxième aspect, c'est parce qu'il pense que tout ce qui est université d'élite, c'est mauvais. C'est gauchiste.
Ça conteste.
Voilà. Donc, tu as au contraire en Chine, actuellement le PDG du Huawei, qui a réussi à vaincre, et il a réussi à vaincre le problème des semi-conducteurs. Et résultat, maintenant, quand ils se retrouvent à discuter à Londres, parce qu'ils ont cet acquis sur les semi-conducteurs, ils n'ont plus à céder comme ils ont cédé au premier Trump.
Bien sûr.
C'est fini. Ils ont gagné et l'innovation est là.
Ils sont dans
et
l'avance.
Si tu veux, tu as tout ça qu'il faut comprendre.
Bien sûr.
On peut te donner des exemples fascinants de ce qu'ils arrivent à mettre actuellement en place. Ils sont passés du stade où ils imitaient.
Ah, c'est passé depuis longtemps, ça.
Voilà, au stade de l'innovation la plus percutante.
Tout à fait.
Voilà.
C'est vrai en matière d'énergie nucléaire, c'est vrai en matière de réseau électrique, c'est vrai d'aciérie.
Voilà.
Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui la Chine est le premier producteur d'électricité au monde ?
Bien sûr.
Au monde, largement devant tous les autres.
Attends, et en écologie, ce qu'ils arrivent à faire. En utilisant, bon, on pourra en parler. Mais si tu veux, c'est fascinant.
Bien sûr.
Parce que par rapport à ça. Tu t'aperçois de quelque chose, c'est là où le monde bascule, où on n'a pas idée que ce monde bascule.
De ce point de vue-là, c'est déjà fait.
Dans les forces productives, l'innovation, dans tout ça.
La science.
Et l'intérêt, c'est qu'on a encore en France des capacités qui restent en général de ce qu'on appelle la libération. Et tu as encore des capacités, des bassins d'emploi, des bassins. Tu as, par exemple, quand ils sont en train de détruire du côté de l'Isère, alors qu'il y a tout ça. Et il faut valoriser tout ça. Et il faut qu'on crée les conditions d'un échange.
Voilà, donc cette Chine, alors on va faire appel maintenant à un des contributeurs qui est donc Jean Julien. Qui va nous l'expliquer, on va l'avoir en ligne, qui va nous expliquer comment ça fonctionne cet appareil d'État chinois avec tous les gens qui pensent scientifiquement, qui raisonnent. Mais je sais qu'il y a aussi des congrès de philosophie où des Occidentaux viennent en nombre, où il y a un expert chinois sur Kant qui est d'une taille au-dessus des autres.
C'est
stupéfiant.
Marianne a traduit un livre. Elle a traduit, d'ailleurs on en parle, elle a traduit un livre du chinois où les gars connaissent toute la littérature française, tout le truc, infiniment mieux que ce que nous savons.
On va la voir. Voilà. Dernière chose, si on l'a en ligne, pour que tu parlais de la libération. Je dois insister sur le fait qu'il y a quelques décennies, la Chine a décidé de se doter d'un système de sécurité sociale qui est la copie conforme du système d'Ambroise Croizat. C'est-à-dire, ils l'ont mis au point, après avoir abandonné le système des communes populaires, ils ont dit, bon, il n'y a plus rien, et donc on n'avait plus effectivement plus rien. Et aujourd'hui, il y a des caisses de sécurité sociale en Chine qui sont sur le modèle de 1945. Voilà. Le nôtre est en train de s'être
oui,
dégradé.
Alors que le nôtre est voilà. attaqué.
Voilà, donc on a en ligne Jean-Julien qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Allô, allô ?
Oui, bonjour, bonsoir.
Bonsoir d'être avec nous, voilà. Alors, on a un peu plus que ça abordé le sujet, mais je voulais te demander, parce que j'ai lu la partie que tu as fait dans ce livre, qui démontre ce que tu sais, c'est-à-dire que à travers des versions anglaises, je précise, parce que ça ouvre le champ à d'autres curieux que toi, de voir tout ce qui se publie, que ce soit dans l'appareil d'État, ministère par ministère, au comité central, au conseil d'État, ce qui se publie dans les universités, ce qui se publie, et c'est là, dans les think tanks, parce qu'il y a des think tanks en Chine. Et donc, tu es certainement un des personnages français qui a une lecture la plus régulière, si ce n'est quotidienne, tu nous le diras, de tout ce qui se publie en Chine. Et donc, tu es exactement au courant du niveau et de l'activité intellectuelle de ce peuple entier sous ces différentes formes. Voilà, donc explique-nous.
Oui. Oh, il faut pas m'envoyer tant de lauriers.
Mais moi, je connais pas de travaux de cette taille-là et de cette largeur de vue, si tu veux. Parce que il y a effectivement non, des ça, gens ça, qui sont à l'affût des décisions.
Je suis pas un grand sinologue. Ce qu'il y a, c'est que c'est depuis longtemps.
Oui, voilà. C'est depuis longtemps. En plus,
je me suis intéressé en 68.
Voilà. Raconte.
Je me suis intéressé à la Chine en 68 parce que. J'allais passer mon bac et je passais un bac de philo et puis j'ai lu les 4 essais philosophiques de Mao Tse-Tung.
Voilà.
C'est-à-dire de la pratique, de la contradiction,
de la contradiction,
de la juste solution des contradictions au sein
du
peuple
oui.
et d'où viennent les idées justes.
Exact.
Alors, de la pratique et de la contradiction, c'est le matérialisme dialectique.
Exactement.
Mais donc à la chinoise, je dirais. À la chinoise. Parce que en France, il y avait Politzer qui a donné des cours aussi. C'était à peu près à la même époque. D'ailleurs, Politzer cite Mao Tse-Tung dans ses cours.
Mm-hmm.
Et les cours de Mao Tse-Tung s'adressaient à des ouvriers, des paysans de l'armée de libération. Ce n'est pas des intellectuels au départ. Hein.
Mm-hmm.
Donc, c'est des textes qui sont très clairs, très faciles à lire. Et il y a une particularité, c'est que chez Politzer, il parle beaucoup, enfin, dans son cours, il critique la métaphysique et l'idéalisme.
Mmh.
Pourquoi ? Parce que dans notre culture, ça prend énormément de place.
Et
je dirais même que ça existe dans notre pensée courante, c'est l'idéalisme et la métaphysique qui dominent.
Oui.
La dialectique et le matérialisme, c'est très rare. Si on a, par exemple, Diderot, dans des lettres à Sophie Volant, je crois que c'est ça,
oui, oui.
Il parle de la vie et de la mort, et il explique la dialectique entre la vie et la mort. Il n'y a pas beaucoup de textes philosophiques comme ça qui sont aussi clairs, qui sont dialectiques et aussi clairs. Et elle a été très combattue, par exemple, c'est un physicien qui avait fait un bouquin sur je me rappelle plus. Ah, c'est un biologiste qui avait écrit là-dessus et qui faisait une attaque en règle contre Engels et très très malhonnête d'ailleurs. Et moi, j'ai plus son nom, mais c'est pas important. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre les textes de Mao et ceux de Politzer ? C'est que finalement, la philosophie chinoise, elle est déjà un peu dialectique et matérialiste, pragmatique, on dirait.
Mmh.
Et Mao a repris ça, mais évidemment, en s'inspirant du marxisme-léninisme, et il a porté un niveau supérieur, c'est-à-dire que la dialectique de Mao Tse-Tung et des marxistes-léninistes, et c'est pas juste l'opposition de deux contraires, c'est la transformation des choses à partir de cette contradiction. C'est la spécificité des aspects de chaque contradiction et de chaque contradiction. Pourquoi l'eau, elle boit à 100 degrés à 1013 millibars ? Ben, c'est parce que c'est de l'eau. Maintenant, si on veut chauffer un caillou à 1013 millibars et 100 degrés, il se passera pas la même chose. Donc, c'est la spécificité des éléments de la contradiction. Et la Chine a donc des spécificités qui lui sont propres et qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est une chose importante parce que la Chine, elle est née, sa révolution, elle a commencé à l'époque du féodalisme. À l'époque du féodalisme, la révolution bourgeoise avait à peine commencé avec Sun Yat-sen, et puis surtout à l'époque du colonialisme, et puis après de l'occupation japonaise. qui a coûté des dizaines de millions de morts au peuple chinois. Okay. Ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que la Chine, elle est partie de rien. C'était une feuille blanche, hein, comme disait Mao Tse-tung, on peut y écrire le plus beau poème. Eh bien, elle est partie de rien. Donc, il faut bien voir le trajet qui a été parcouru en 76 ans. Tout à fait. Et sans compter les années de lutte, oui. 20 ans et plus de lutte armée. Hein. Et donc, voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que le matérialisme dialectique ? C'est le pragmatisme, c'est partir des faits. Et un des premiers textes de Mao Tse-tung, le premier même, c'est l'analyse des classes en Chine. Il a commencé par ça. Ouais. Il a étudié chaque classe et il a défini à partir de là eh bien, quelles étaient les classes alliées et celles qui étaient hostiles, celles qui pouvaient éventuellement, la bourgeoisie nationale, les industriels chinois, qui n'avaient jamais pu s'épanouir, l'industrie chinoise n'avait jamais pu s'épanouir sous le colonialisme et l'occupation, eux, eh bien, ils étaient susceptibles d'aider la révolution. C'est à partir de là qu'il a eu l'idée du front uni, et du front uni anti-japonais qui comprenait le Kuomintang. Oui. Mais le Kuomintang, il ne voulait pas faire un front uni japonais contre les Japonais. Il voulait écrabouiller le Parti communiste, comme on en a parlé tout à l'heure. Écrabouiller d'abord les communistes. Bon, mais ils ont fait des campagnes d'encerclement et d'anéantissement, ce qui faisait le Kuomintang. Mais finalement, Chiang Kai-shek, il s'est fait arrêter par ses propres officiers qui l'ont livré aux communistes. Et les communistes lui ont dit, mais il faut faire le front uni contre le Japon.
C'est l'incident de Xi'an.
Donc ils ont vaincu les Japonais, ouais. Ça a été des luttes terribles, où Mao a déployé tout son travail intellectuel et théorique sur la lutte armée, hein, de partisans, etc. Bon, je ne veux pas en parler, parce que ça prendrait... Il a écrit des pages et des pages là-dessus. Et l'autre aspect, donc alors, le pragmatisme, donc partir des faits, hein. Et d'autre part, c'est, je dirais, l'esprit, comme on dit à Montpellier, c'est l'esprit raboussier. Tu connais l'esprit raboussier ?
Non, on écoute. Allez, dis-nous.
Allô ?
Non, je ne connais pas, mais on t'écoute. Ah, on a perdu le fil. Ah. Oui, donc oui, on va le rattraper en route. Donc voilà, une belle prise de... une clarification, disons, au niveau de la philosophie, hein, qui n'est pas que la métaphysique, effectivement, le matérialisme.
Il y a le pragmatisme, voilà. Il y a les faits.
Voilà, il y a les faits, la réalité vécue, et puis la volonté maoïste de faire partager la réflexion centrale sur l'évolution d'une société à la base. C'est le paysan qui s'approprie le débat, c'est l'ouvrier qui s'approprie le débat. C'est pas le comité central qui a compris tout et que les autres ne font que suivre. C'est ça la grosse différence. Enfin, l'approche maoïste, elle est là. Voilà. On retrouve Jean-Julien. Allô.
Oui, excusez-moi. Voilà. Donc je disais, la dialectique, c'est un peu l'esprit raboussier. Et tu connais ça, c'est ce qu'on dit dans le Midi. Le raboussier, c'est le contrariant. Hein. Tu lui dis blanc, il te dit noir.
Ah non, c'est ça. C'est côté occitan, ça. Non, je ne connaissais pas. Vas-y.
C'est occitan, oui, oui. La dialectique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as une pièce de monnaie, mais tu regardes le côté face, et puis il y a le côté pile. Les deux, ils sont attachés ensemble. Ils sont attachés ensemble, mais ils s'opposent. C'est ça qui est un peu mystérieux pour nous, c'est que les contraires peuvent être identiques, d'une certaine façon. Et Lénine en parle à propos de Hegel, et il reprend les textes de Hegel, il dit c'est l'identité des contraires. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre. On n'admet pas l'identité des contraires. Mais l'identité des contraires, ça veut dire quoi ? Eh bien, par exemple, qu'on est dans un pays capitaliste, démocratique, mais c'est une dictature. Donc il y a identité entre la contradiction entre la démocratie et la dictature. La démocratie, c'est qu'on peut parler ici, hein, à Radio Galère. Mm-hmm. Ça, c'est la démocratie. Mais il y a en même temps les lois scélérates.
On les a aussi.
16, etc. les balles dans les yeux des gilets jaunes. Ça, voilà. C'est le côté dictatorial. C'est pas le fascisme. C'est pas le fascisme. Le fascisme, c'est la dictature terroriste ouverte. Mm. Des éléments les plus réactionnaires du grand capital. C'est très particulier. Ce que nous vivons, c'est une dictature démocratique.
De classe.
De la bourgeoisie, bien entendu. Et du côté du socialisme, je ne dirais pas le communisme, dans un pays socialiste, c'est aussi une dictature démocratique, mais c'est celle du peuple contre la bourgeoisie. C'est l'inverse. Mais il y a l'identité entre les deux, parce que toutes les deux de ces sociétés sont des dictatures démocratiques, dans une certaine manière, mais opposées. Mm-hmm. Et une remplace l'autre. C'est-à-dire que c'est pas figé, mais la transformation des choses, les contradictions font que les choses se transforment. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, ce qui est en train de naître, finira par l'emporter sur ce qui est en train de mourir. Mmh. Que disait Staline à propos de la contradiction, lui aussi a parlé, a fait un texte sur le matérialisme dialectique. Mmh. Il explique ça, c'est que l'ancien disparaît au profit du moderne. Et c'est aussi ce qui se passe avec les BRICS et avec l'hégémonie des UFA. C'est aussi cet aspect-là. C'est la disparition de l'ancien et l'apparition du nouveau qui est déjà là, d'une certaine manière.
C'est ce qu'on dit.
Donc, par exemple, tu m'as envoyé un texte très intéressant sur la division et l'unité, qui dit que l'unité entraîne la division et la division entraîne l'unité. Mmh. Hein, c'est bien ça.
Oui, exactement.
Hein et bien, par exemple, on pourrait se poser des questions nous-mêmes sur l'unité de la gauche avec des gens qui s'appellent socialistes.
Bien sûr.
Mais qui n'ont jamais été pour le socialisme. Mitterrand était contre le socialisme. Hollande est contre le socialisme. Et il y en a qui veulent renverser la table et ils ne veulent pas du socialisme. Ils n'en ont jamais parlé.
Bien sûr.
Donc là, l'unité, elle est bizarre parce que.
Fragile.
On a même dit à une époque que. Il fallait pas faire le jeu de la droite, si on les, donc pas les critiquer. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'unité avec la critique. On n'admet pas que l'unité puisse se dérouler avec la critique. Donc on n'admet pas les deux. Alors qu'en fait, si, c'est indispensable. Et à l'inverse, eh bien, on fait la critique absolue, on sépare les choses, alors qu'on n'admet pas qu'il y ait l'unité aussi entre les choses différentes. Par exemple, comment se fait-il qu'on ait 9 syndicats et organisations professionnelles pour s'opposer à la réforme des retraites, alors qu'un seul syndicat suffirait? Quand est-ce qu'on a obtenu des revendications? C'était en 36, il n'y avait qu'un seul syndicat.
Allô?
Non,
c'est un petit peu haché, vas-y, continue. C'est un petit peu haché, mais continue.
Ah bon, excusez-moi. Hein.
Non, pas du tout.
Excusez-moi. Alors, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important, c'est le matérialisme dialectique dans la pensée de Mao Tse-Tung, et qui a été conservé. La question de partir des faits, c'est quelque chose qui a toujours été conservé. Mmh. Et puis, deuxièmement, il y a un grand texte aussi qui s'intitule « De la juste solution des contradictions
au sein du peuple ».
Oui. Juste avant ça, je voulais citer un petit exemple à propos de la critique et de l'unité de la division. Quand il y a eu le Covid, on se souvient tous qu'au début, la presse, la télé, tout ça, on parlait de ces hôpitaux qui ont été construits en 10 jours.
Oui.
Ça stupéfait tout le monde, parce qu'ici, on a des cliniques qui ferment, les mamans, elles vont accoucher dans la voiture. Hein.
Oui.
C'est vrai, ça s'est réalisé. Ça,
tout à fait.
Bon, alors quand c'est arrivé, ces hôpitaux construits si vite, les hôpitaux provisoires, mais tout le monde était estomaqué. Puis alors, en particulier, les capitalistes, ça leur a fait mal au foie, parce que les gens, ils sont pas fous. Hein. Tous les collègues, les retraités syndicalistes, ont dit, mais dis donc, non, la Chine, ça ils étaient surpris. Et puis, enthousiasmés même. Hein.
Oui. Bon.
Et aussitôt, le bashing anti-chinois a commencé. Ils ont eu une aubaine, c'est que Li Wenlian, l'ophtalmologue chinois, et jeune ophtalmologue, il est mort du Covid. Et alors ici, on a eu partout les photos de Li Wenlian, comme si c'était un scoop extraordinaire qui aurait été caché par les Chinois. Ils n'ont pas du tout caché la photo de Li Wenlian. Au contraire, Global Times, le jour de sa mort, a publié sa photo en l'appelant le lanceur d'alerte réprimé par la police. C'est le texte qui est écrit dans Global Times. Je crois qu'on peut le voir encore sur Internet. Et je l'ai signalé dans notre livre. Ils ont dit le lanceur d'alerte réprimé par la police de Wuhan. Ça a été écrit dans la presse chinoise, pas dans le Figaro. Là-bas,
exactement,
ça a été écrit. Ils ont été au courant bien avant nous. Et c'est pas 3 Chinois, c'est 900 millions de Chinois qui étaient sur Internet à l'époque. Maintenant, ils sont 1 milliard. Et puis, la police de Wuhan a été obligée d'enlever sa plainte, évidemment, de retirer sa plainte et de s'excuser auprès de la famille de Li Wenlian, de présenter ses excuses. Li Wenlian, il a été décoré de l'ordre du 4B. Il y a eu un musée en son honneur qui a été créé dans l'hôpital de Wuhan. Voilà ce qu'a fait la Chine. Alors ici, on l'a présenté presque comme un opposant.
Oui,
oh,
bien
ça
sûr.
Y est, on a trouvé l'opposant. Ben non, c'est pas un opposant. Il était membre du Parti communiste chinois.
Voilà.
Alors voilà, donc ça c'est sur la question de la critique et de l'unité. Le peuple chinois, il est uni autour du Parti communiste, mais il a le droit de critiquer, contrairement à ce qu'on prétend ici, il a le droit de critiquer. Et la censure, elle est beaucoup moins en Chine qu'ici, parce qu'ici on n'a jamais dit tout ça, ce que je viens de le dire. Personne ne l'a dit, personne n'a dit que dans la presse chinoise, il avait été dit ces choses-là, et qu'il avait été décoré par le gouvernement. Et ce n'est pas pour récupérer quoi que ce soit, puisqu'il était déjà membre du Parti communiste, Li Wenliang. C'est pas lui qui avait découvert le Covid, d'ailleurs, c'est une pneumologue Shen Xixian qui l'a découvert à la toute fin du mois de décembre. Donc, je cours cette petite parenthèse pour parler de la juste solution des contradictions au sein du peuple. Ça, c'est un texte très important qui a été écrit par Mao Tse-tung au lendemain des événements de Hongrie en 56. Il a écrit, il a publié en 57 après de nombreuses discussions au sein du comité central et qui concernent les contradictions au sein du peuple dans la société socialiste. Parce que, c'est pas ce qui s'est passé en Hongrie en 56, mais en Chine, il y a eu des répercussions aussi parmi l'intelligentsia. Et alors, Mao Tse-tung explique qu'il y a les contradictions entre les alignés et nous, et les contradictions au sein du peuple. Et les contradictions au sein du peuple, disait-il, doivent se résoudre par la discussion et la persuasion, et pas par la contrainte. Ça, c'est très éclairant, parce que quand on parle de Mao Tse-tung maintenant, c'est pas dans les années 70. Hein. Dans les années 70, il était respecté partout. Mais maintenant, on dit que c'est un tyran sanguinaire.
Tout à fait.
C'était pas un tyran sanguinaire. Mao Tse-tung a lancé la révolution culturelle. C'est une erreur qui a été critiquée en 81 et autocritiquée par le Parti communiste chinois. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement? C'est que pendant cette révolution culturelle, je pense qu'il y a un mot à dire là-dessus. À mon avis, et ça dit, c'est écrit dans cette autocritique de 81, il n'a pas respecté la révolution culturelle, n'a pas respecté la pensée de Mao Tse-tung, elle n'a pas respecté, par exemple, ce texte important de la juste solution des contradictions au sein du peuple, puisque les contradictions en Chine, au sein du peuple, elles ont été prises pour des contradictions avec l'ennemi. Exactement. Les gardes rouges s'en sont pris à des professeurs parce qu'ils défendaient l'idéologie, la théorie positiviste, l'école de Copenhague, par exemple, des choses comme ça. Mmh. Ils ont constitué des factions, des factions hostiles, ils se sont armés. Zhou Enlai leur disait, mais arrêtez de poser vos armes, arrêtez de vous battre, etc., etc. Mais ils ont continué, ils se sont armés, ils ont tué des gens, ils ont effectivement, on ne sait pas combien, on a dit des chiffres abominables, mais on ne sait pas, en fait, personne, il n'y a que les institutions chinoises qui le savent. Mmh. Et Mao Tse-tung lui-même a dit, à propos de certains gardes rouges, que c'était des méthodes fascistes. Mao Tse-tung qui a dit ça. D'un côté, il a lancé la révolution culturelle, d'un autre côté, il a dit que ils utilisaient des méthodes fascistes. C'est un texte, c'est une lettre qu'il a écrite à Zhou Enlai, qu'on peut trouver dans les œuvres de Zhou Enlai. Donc, mais là, on peut dire aussi que les gardes rouges n'ont pas respecté non plus la question de l'unité, de la division, et aussi, d'ailleurs, le petit livre rouge lui-même. Puisqu'on les a vus défiler sur la place Tiananmen en brandissant le petit livre rouge, des milliers de billets de gardes rouges. Et sur le premier chapitre du petit livre rouge, ce premier chapitre s'intitule « Le Parti communiste, c'est le noyau dirigeant de notre cause ». Le Parti communiste chinois est le noyau dirigeant de notre cause. C'est écrit en toutes lettres dans le petit livre rouge, ou dans le premier chapitre. Eh bien, les gardes rouges ont créé un pouvoir parallèle. Donc c'est la contradiction même de ce qui était écrit dans ce petit livre rouge qu'ils ont brandi eux-mêmes. Donc, ça allait à l'encontre de la pensée Mao Tse-tung. Et ça, c'est un texte dont j'ai donné les références, résolutions sur quelques questions de l'histoire de notre parti depuis la fondation de la République populaire. C'est un texte qui est en français, qu'on trouve en ligne et que j'ai donné la référence. Et alors, après est arrivé Deng Xiaoping, et ici, pareil, ça a été le bashing anti-chinois. Deng Xiaoping, c'était le capitalisme. Le chat noir, le choix blanc, le choix gris, le chat gris, etc. Mais il y a des choses qu'on n'a jamais dites parce qu'on a encore censuré ça. Deng Xiaoping a défendu quatre principes fondamentaux. Il a défendu quatre principes fondamentaux. C'est la voie socialiste, la direction du Parti communiste, la dictature du peuple, c'est-à-dire la dictature démocratique du peuple, dont je parlais tout à l'heure,
oui.
Et aussi le marxisme-léninisme et la pensée Mao Tse-tung. Donc il n'a pas du tout remis en cause, et même ce document de critique, d'autocritique de 80, n'a pas déboulonné Mao Tse-tung comme Khrouchtchev l'avait fait avec Staline, pas du tout. Les Chinois l'ont laissé le portrait de Mao Tse-tung, place Tiananmen. Donc ce sont ces quatre principes fondamentaux qui ont été maintenus par Deng Xiaoping et que Gorbatchev a démoli en URSS. Il y a un livre très important qui s'intitule « Erreur ou trahison » sur Gorbatchev, qui a été publié il y a quelques mois, qu'on a étudié d'ailleurs, et qui démontre et qui fait à l'appui comment ces quatre principes-là, la voie socialiste, la direction du Parti communiste, la dictature du prolétariat, ils disent en URSS, et le marxisme-léninisme, ils disent-ils aussi, mais ça a été complètement démoli, saboté par Gorbatchev, et volontairement. Très volontairement.
Et c'est l'occasion de rappeler quand même que Gorbatchev est venu à Pékin pour dire qu'il avait raison.
Le culturel, c'est que les Chinois l'ont critiqué. Ouais. Mais maintenant, Xi Jinping refait la révolution culturelle sous une autre forme.
Oui.
C'est-à-dire non pas de façon un peu anarchique, comme ça, en disant « Allez-y, libérez-vous, écrivez des tatibas, etc. » Non. C'est une façon qui est organisée par le Parti communiste lui-même contre lui-même. Contre lui-même, c'est-à-dire qu'on demande au peuple de faire ses critiques. Et Xi Jinping écrit que l'autorévolution du parti, sur la base de la première réponse donnée par le camarade Mao Zedong lors du laisser le peuple superviser le gouvernement, là il parle de la révolution culturelle, il n'est pas très critique dans ses paroles d'ailleurs, nous avons donné la deuxième réponse qui est de promouvoir continuellement l'auto-révolution du PCC, c'est-à-dire c'est le PCC qui fait lui-même son autocritique en permanence sur la base des critiques de la population. Voilà, donc c'est la révolution culturelle, la critique de la révolution culturelle, et puis de nouveau, sous une autre forme, c'est le 8 règlement d'ailleurs dont il est question, sous une autre forme, la renaissance d'une révolution culturelle, mais menée dirigée par le Parti communiste lui-même.
Voilà. Voilà. Alors, merci parce que ta contribution est extrêmement...
Je sais pas, tu m'entends toujours, là ?
Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends, toi ? Est-ce que tu m'entends, toi ? Non, il ne m'entend pas. Oui, oui. Non, je t'entends très bien, mais est-ce que tu m'entends, Jules ? Non, tu ne m'entends pas. Bon, alors on va...
Tu m'entends, là ?
Oui, je t'entends. On va interrompre pour passer à la phase suivante, mais je voulais te remercier parce que ce que...
Allô, m'entends ?
Oui, je t'entends, mais si tu ne m'entends pas, on va être obligé de couper. Non, coupe. Voilà. Voilà. Parce qu'effectivement, on entendait bien Jules Julien, mais lui ne nous entendait pas. Donc, si je peux tenter de résumer ce qu'il vient de dire, bien comprendre qu'il y a en Chine un parti communiste au pouvoir qui est conscient, et à travers l'exemple de l'Union soviétique qui vient d'être évoqué à travers Berger, qui est conscient qu'un parti communiste qui se coupe du peuple et qui ne continue pas à faire un travail sur lui-même et qui ne considère pas qu'il est lui dépositaire du pouvoir, c'est ça. Hein, c'est pas une nomenclatura, comme on disait, ou quelques personnes au comité central. C'est le dépositaire du pouvoir, c'est le peuple, et le peuple, il s'exprime à travers le Parti communiste. Et il doit toujours s'exprimer à travers le Parti communiste, et pas en faisant appel à des dissidents.
Voilà. Oui, mais la grande contradiction, telle que la pose Xi Jinping, c'est, dit-il, la grande contradiction du socialisme, c'est la contradiction entre les aspirations du peuple à bien vivre et à jouir de sa vie et les moyens de répondre à cela. Le socialisme chinois est un socialisme de la jouissance, c'est-à-dire le peuple a le droit de réclamer le bonheur et la jouissance
et de vivre.
On doit lui répondre.
Tout à fait.
Voilà.
Et c'est ça l'objectif du gouvernement. Ce n'est rien d'autre que ça.
Le grand objectif, c'est ce que me disait Risquette. Il me disait si les Chinois oublient qu'ils ont 1,3 milliard de Chinois à nourrir. Ils ont perdu le mandat du ciel, quoi.
Mais,
c'est fini.
Mais bien entendu.
Donc, le rôle du Parti communiste, la dictature, c'est arriver à obtenir cette tension, cette dynamique, en chaque fois gagnant de nouvelles bases, en ne sacrifiant pas les intérêts du peuple. Tu le retrouves dans plein de phénomènes. Par exemple, les entreprises d'État ne donnent pas beaucoup au gouvernement.
Il
y a pas, très peu d'impôts.
Très peu d'impôts.
Parce qu'il faut qu'elles soient les promoteurs d'autre chose, d'une autre dynamique, etc. C'est ce que dit Jean Julien, s'incarne à partir des conditions matérielles très réelles. Quoi. Réelles. Voilà.
Alors, je ne sais pas si on a à nouveau Jean Julien.
Oui, oui, j'entends là.
Voilà, voilà. Donc, on a un petit problème. On t'entendait, tu ne nous entendais pas. Donc, on a essayé de synthétiser, aussi difficile que ce soit, en si peu de temps, ce que tu nous as dit sur la place centrale du Parti communiste qui exprime, lui, les besoins du peuple. Il n'est pas là. Ce n'est pas un échelon décentralisé du comité central. C'est exactement l'inverse. Hein, le comité central, c'est le sommet.
Oui.
Ah, il m'entend plus.
Oui, d'accord, oui. J'avais quelques ajouts à faire.
Bon, alors on y va.
Ah, j'avais quelques ajouts à faire.
Vas-y.
Oui, parce que donc Deng Xiaoping a maintenu les quatre principes fondamentaux,
hein,
contre vents et marées.
Tout à fait.
Et contre vents et marées, parce que il y a eu et alors ça c'est une question très importante. Il y a eu Tiananmen. Tiananmen, ici on en parle, c'est un massacre. Effectivement, ça a été assez grave ce qui s'est passé à Tiananmen, c'est-à-dire qu'il y avait des milliers et des milliers de manifestants, ouvriers, étudiants, qui étaient pour la plus grande partie hostiles ou critiques face aux réformes de Deng Xiaoping. Mais au milieu de ces manifestants, il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins nombreux et dont l'objectif était complètement différent. Leur objectif, ce n'était pas de critiquer la réforme. Là. Eux, leur objectif, c'était de revenir à un autre système, de saboter, de détruire le système socialiste.
Tout à fait.
De détruire la Chine socialiste. C'était ce qu'on appelle ici des pro-démocraties. Pro-démocratie bourgeoise, évidemment. Mmh. Et ces manifestants-là, qui n'étaient pas les plus nombreux, ont d'abord essayé de décrocher le portrait de la place Tiananmen. Les autres les en ont empêchés. Et puis, lorsque la place Tiananmen a été vidés, ils sont partis, les manifestants sont partis, l'immense majorité des manifestants sont partis, il y a eu des affrontements. Non pas place Tiananmen, parce qu'on ne peut pas faire de barricade place Tiananmen, c'est comme si on allait faire une barricade sur la place du Trocadéro, il ne faut pas être idiot. Donc ils ont fait des manifestations, des heurts avec la police, dans les rues environnantes, dans les faubourgs. Ils ne se sont pas contentés de taper sur les flics. Ils leur ont piqué leurs armes parce qu'ils étaient faiblement armés, les policiers.
Oui.
Ils leur ont piqué leurs armes. Les tanks n'ont pas roulé. D'ailleurs, Deng Xiaoping dit heureusement que les tanks, vous n'avez pas envoyé les tanks directement rouler sur la population. Et ils ont piqué les armes des flics. Ils leur ont tiré dessus.
Oui.
Ils ont fait des prisonniers. Ils les ont lapidés.
Oui.
Il y a eu trois policiers. Ils ont brûlé les véhicules. Il y a eu trois policiers qui ont été brûlés vifs. Et il y a une photo d'un d'entre eux qui est brûlé et accroché à un quart de police calciné. C'est ce qu'ont fait ces fameux manifestants pro-démocratie.
Mmh.
Et puis, il y en a... donc, il y a eu plusieurs centaines de morts, effectivement, parce que la police a tiré aussi. Et puis, il y en a 400 qui ont été exfiltrés par la CIA et le MI6. Voilà, c'est ça qui s'est passé, Tiananmen.
Parce que ceux-là avaient été sélectionnés.
Un échec pour les bourgeoisies impérialistes occidentales.
Oui,
c'est un grave échec. Alors qu'au même moment, quelques mois plus tard, en URSS, c'est l'inverse qui s'est produit.
Exactement.
C'est qu'à l'initiative de Gorbatchev et puis de Eltsine, c'est l'armée qui a tiré sur les communistes. Et ils ont démoli l'URSS. Ils ont fait exactement l'inverse de ce qui s'est passé en Chine. En URSS, on a fait une restauration du capitalisme, comme on avait fait en France à trois ou quatre reprises après la Révolution, d'ailleurs. Les royalistes ont refait des restaurations temporaires. En URSS, ils ont fait cette restauration. Alors qu'en Chine, au contraire, ils ont maintenu ces quatre principes fondamentaux. Et alors, un autre texte que je n'avais pas lu en 68, mais que j'ai lu un peu plus tard, et qui, lui, ne date pas de 56, mais de 1950, juste après la Révolution, c'est de la démocratie nouvelle. Et ça, c'est un texte qui a traversé les époques, parce que on peut le comprendre aussi aujourd'hui. La démocratie nouvelle, c'est une étude de Mao Tse-Tung qui part de l'étude de Lénine, sur les nations colonisées, qui part des études de Staline aussi sur les nations colonisées, Et ces nations sont en lutte contre l'impérialisme. Au début, c'était la guerre du Vietnam, c'était la guerre d'Algérie, c'est des choses comme ça. Mmh. Et c'est ce que les Chinois ont rassemblé un peu dans les non-alignés. Parce que ce n'étaient pas des pays socialistes, c'était des bourgeoisies nationales.
Oui, oui.
Et toutes sortes de classes, mais qui étaient opposées à l'impérialisme. Mmh. Et Mao Zedong fait cette étude, il dit que, étant donné que ces révolutions démocratiques et nationales, du même type au départ que la révolution de 89, notre révolution bourgeoise, oui, oui, étant donné qu'elles sont en but à l'impérialisme, elles ont un caractère nouveau. Oui. Parce qu'elles s'opposent à l'impérialisme, obligatoirement. C'est une révolution nationale, elles s'opposent à l'impérialisme. Et puis d'autre part, il s'est passé autre chose de nouveau entre la révolution de 89 et 1950, ces années-là, c'est que l'URSS s'est levé. Il y a un grand pays socialiste. Donc on n'est plus à l'époque des révolutions bourgeoises, démocratiques et nationales. On est passé à un autre type de révolution, c'est ce que Mao appelle la révolution de démocratie nouvelle. Les bourgeoisies nationales, même si c'est des rois, des princes, même si c'est des empereurs ou des petits dictateurs, ça, à partir du moment où ils s'opposent à l'impérialisme, elles jouent un rôle positif dans la révolution mondiale, parce qu'ils s'opposent à l'impérialisme. C'est une partie, disait-il, de la révolution mondiale. Hein, voilà, peu importe chez les peuples opprimés quelle classe, quel parti ou individu participe à la révolution, et peu importe qu'il soit conscient ou non de ce que nous venons d'exposer, etc., etc. Il suffit qu'il s'oppose à l'impérialisme pour que leur révolution devienne une partie de la révolution mondiale socialiste prolétarienne et qu'ils en soient les alliés. C'est pas des socialistes prolétariens, mais ils en deviennent des alliés. Et c'est ce qu'on voit avec les BRICS aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que c'est plus des révolutions démocratiques nationales dont parlait Mao Tse-Tung, des révolutions nouvelles avec des fusils, des pétoirs contre les avions. C'est une révolution économique et technologique. C'est-à-dire qu'après avoir acquis leur indépendance, il leur faut obtenir l'indépendance économique et pouvoir se développer, ne pas rester à l'époque de la charrue et de l'âne qui tire la charrette. Il faut qu'ils puissent se développer, ces pays-là, mais ils ne peuvent se développer que contre l'impérialisme. Et parce qu'ils se développent contre l'impérialisme, donc, y compris la Chine, mais aussi tous les autres, eh bien, ils s'opposent à l'impérialisme, eh bien, ils jouent un rôle positif dans la révolution mondiale, et ils sont nos alliés aussi, parce que nous avons le même ennemi. L'impérialisme, ce sont nos capitalistes, ce sont nos grands capitalistes. La Chine ne s'oppose pas à nous. La concurrence chinoise, elle ne se fait pas contre nous. Elle se fait contre nos impérialistes. C'est contre eux qu'elle se fait. Alors après, il se trouve que l'hégémonisme des États-Unis l'empire des États-Unis est devenu si puissant qu'il a dominé tous les autres. Mais il ne peut rester une hégémonie que s'il s'oppose à tout le monde, y compris les pays capitalistes, y compris les autres puissances impérialistes. Il doit les détruire aussi pour exister. Et ça n'est pas tenable. En fait, c'est lui-même qui a créé son propre exécuteur, puisqu'il a lui-même délocalisé, et tous les autres ont fait pareil, ont délocalisé dans les pays en voie de développement. Et maintenant, ces pays créent leur propre richesse. Ils créent leur propre richesse, ils en sont propriétaires. Et ben maintenant, les pays rentiers que nous sommes sont dans une... Les pays, les bourgeoisies capitalistes de ces pays sont dans une situation inextricable.
Oui.
Et c'est la raison pour laquelle l'hégémonisme US n'est plus déjà une hégémonie. À partir du moment où il y a une concurrence qui s'élève bien venant sûr de tous ces pays, eh bien, il n'y a plus d'hégémonie, de fait. Mais c'est un processus qui ne se fait pas en l'espace de quelques minutes. C'est une lutte entre ce qui disparaît et ce qui naît, comme je disais tout à l'heure. Et inévitablement, ce qu'on appelle le Sud global triomphe de l'hégémonie, et l'hégémonie disparaîtra. Les États-Unis resteront une grande puissance, mais l'hégémonie doit disparaître. C'est la raison pour laquelle on doit rejoindre les BRICS. Voilà, c'est la conclusion que je voulais donner sur ces différents textes de Mao qui ont gardé finalement une grande actualité.
Grand merci pour cette synthèse qui était très, très bien placée à la quasi-fin de cette émission. Alors, on avait prévu de faire parler Franck Marsal. Je ne sais pas si on lui accorde.
Allô ?
Oui, on avait prévu de faire parler Franck. Merci beaucoup, Jules, pour la synthèse que tu viens de faire, en rappelant, je le rappelle parce que tu ne l'as pas dit, mais qu'il y a d'un côté le Sud global, c'est 7,5 milliards de personnes, et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le golden million, hein, c'est-à-dire le milliard de ceux qui croient qu'ils sont développés et en avance sur tout le monde, donc les bourgeoisies occidentales, avec la crise qu'il y a en plus entre elles, hein, les États-Unis, le Japon, qui s'est toujours trompé de camp, j'allais dire, le pauvre, hein, et l'Europe, est-ce qu'il en reste ? Voilà. Alors, est-ce qu'on est en ligne ? Parfait. Bon, tardivement, on s'en excuse, on donne la parole à Franck Marsal, qui va essayer d'insérer cette problématique dans un cadre politique plus français, puisqu'il est au...
Il est membre du PC et en responsabilité dans le PC.
Voilà, membre dans le niveau de dirigeant.
Oui, je pense qu'il est
voilà.
Au conseil national. Il nous dit,
au conseil, ça va. Donc on écoute brièvement, désolé Franck, on a été...
Bonsoir.
Merci. Donc l'insertion de ce dispositif qu'on a essayé de brosser à très très grands traits dans la politique française telle qu'elle est aujourd'hui, avec les partis français tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, merci encore.
Bon, je vais essayer de faire court et rapide. Je pense que beaucoup a déjà été dit, donc ça va être possible. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, ce qui est en train de se passer nous concerne. Il faut comprendre en quoi ce qui vient de se passer nous concerne. Ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer, c'est un changement radical des rapports mondiaux. Ce n'est pas le premier, à mon sens, puisque déjà la révolution russe d'octobre, un établissement soviétique, elle avait induit, et je pense que c'est une contribution très importante qu'on ne souligne pas suffisamment, un premier changement des rapports mondiaux, puisqu'elle avait contribué de manière décisive à un certain nombre d'événements, la fin de la Première Guerre mondiale, l'écrasement du nazisme, mais aussi, et peut-être surtout, à la fin du colonialisme.
Oui.
Voilà, ça c'était une étape très importante de changement des rapports mondiaux permettant au peuple d'accéder à une indépendance politique, peut-être parfois formelle, mais néanmoins un changement très très important par rapport à leur statut précédent. Au colonialisme a succédé en quelque sorte le néocolonialisme qui s'est développé ensuite sous une forme tout à fait catastrophique avec la dérégulation et ce qui s'en est suivi, et ce qui est en train de faire la Chine, c'est qu'elle est en train de clore aussi cette nouvelle étape des rapports mondiaux et d'ouvrir des rapports où non seulement les pays ont accès à l'indépendance politique, mais ils ont accès au développement. Parce que toute la politique du néocolonialisme et de l'impérialisme, ça a été de constituer un plafond de verre au développement, d'empêcher les pays de se développer, de se doter des infrastructures, des moyens de production qui étaient nécessaires, et on voit l'état de l'Afrique après toutes ces décennies, ouais, qui commence à peine, grâce à l'aide chinoise, à se doter des infrastructures électriques, des infrastructures de transport, ouais, qui sont les plus essentielles au développement. On a prétendu aider au développement de l'Afrique pendant des décennies, mais on n'a pas construit un seul kilomètre de voie ferrée moderne.
Exactement.
Et ça nous concerne aussi parce que la France elle-même, dans des circonstances tout à fait différentes, connaît une sorte aussi de frein au développement et de tutelle, puisque en 45-46, sous l'impulsion de la classe ouvrière, du Parti communiste, de la CGT, la France entreprend une immense modernisation qui tire les leçons de la crise des années 30, de l'effondrement de 40, et très rapidement, en 47-48, l'impérialisme, notamment états-unien, lié à la bourgeoisie nationale française qui se relève de sa collaboration avec les nazis, va mettre un terme à cette expérience de modernisation en effaçant les ministres communistes, en reprenant le pouvoir, en envoyant l'armée sur les carreaux des mines contre les mineurs, etc., etc. Et ça va, et en divisant le CGT, bien entendu, qui a été une étape très, très importante aussi. Alors, il va rester des choses, et je pense que ça c'est important aussi de le retenir, c'est que la France, dans l'Europe en particulier d'aujourd'hui, a un rôle et une place extrêmement particulière, parce que du fait de cette histoire qui lui est propre, elle a des outils de souveraineté, elle a des outils de modernisation de ses rapports sociaux, de ses rapports économiques qui sont encore ancrés dans ses bases économiques et sociales. On est un des seuls pays, grands pays d'Europe, à ne pas avoir de base américaine sur notre sol. On nous a fait revenir dans le commandement intégré de l'OTAN, mais on a quand même pas de base militaire états-unienne sur notre sol. Mmh. On a su maîtriser de grandes industries, on a toujours ses savoir-faire. Et puis on a, je vais très vite, hein, donc je développe pas tout, mais on a aussi un peuple, des travailleurs qui ont peut-être plus qu'ailleurs résisté à toutes les étapes du néolibéralisme et de l'empêchement du développement. Alors ça c'est le côté positif. Il y a un côté négatif, c'est que la France, et je le développe un petit peu dans le bouquin, elle est aujourd'hui quand même à la croisée des chemins parce qu'elle est en train de traverser une crise profonde. Oui. De ses forces productives, qui se traduit dans l'effondrement de la production automobile, dans la destruction progressive de notre capacité de production d'acier, dans la stagnation de notre production électrique, de notre production de logement, dans la dégradation majeure de nos services publics, notre système d'enseignement qui faisait de nous un des pays qui formait les meilleurs mathématiciens, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs physiciens du monde aujourd'hui. Malheureusement, on n'en est plus là. Et puis, on était un des derniers pays qui avait résisté avec une démographie positive et on a perdu plus d'un quart de nos naissances en une quinzaine d'années. Mmh. Voilà, donc il y a une crise profonde. Et l'idée générale que je développe, mais je vais peut-être pas avoir le temps d'aller plus loin là maintenant, c'est qu'à cette nouvelle étape des rapports mondiaux peut et doit correspondre une nouvelle étape de modernisation de la France qui doit bien évidemment aller au-delà de ce qui a pu être entrepris en 45-46 parce que la situation a beaucoup évolué, les conditions sont radicalement différentes et qu'on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas simplement reproduire, il va falloir aller plus loin et il va falloir effectivement poser la question d'établir la transition vers une société socialiste en France pour remettre le pouvoir aux mains des travailleurs et engager cette reconstruction et cette modernisation de notre pays.
Voilà une conclusion magnifique et concrète parce qu'en fait, on ne peut pas bouger nous si on ne se rend pas compte que d'autres sont en train de bouger dans la bonne direction. C'est ça qui est le rapport mondial de classe, il se joue aussi là-dedans. Comment on insère la classe travailleuse française dans ce rapport de classe mondiale qui se modifie profondément.
Tout à fait. Si aujourd'hui, ce qui a bloqué, je pense, les perspectives révolutionnaires et progressistes depuis plusieurs décennies, c'est que tout pays qui faisait un pas sur le chemin d'une certaine forme de souveraineté et de progrès, était confronté à une guerre économique absolument terrible, à l'isolement, et donc à l'effondrement forcé de son économie. C'est ce qu'a vécu malheureusement Cuba, qui se bat toujours pour défendre son modèle socialiste. Je pense qu'ils ont en eux tout ce qui leur est nécessaire, il faut qu'on les soutienne, mais pour triompher de cette étape. Effectivement, aujourd'hui, les conditions sont changées, c'est-à-dire que la France, qui choisit un autre modèle, non seulement va pouvoir trouver des partenaires, mais elle va aussi créer les conditions pour sortir de l'ornière et relancer son développement.
C'est exactement ce qu'il faut souhaiter et que donc ce livre que j'ai sous les yeux mérite la lecture parce que précisément il ouvre à ce type de réflexion. Alors, c'est un livre épais, important, non pas parce qu'il est épais, mais parce qu'il pose les problèmes à l'échelle planétaire. Et je vais finir sur la constatation que fait le président chinois. N'oubliez jamais, vous, 8 milliards d'habitants de la planète, que nous sommes tous sur le même bateau. Nous n'avons qu'une planète. D'abord, ne l'abîmons pas, ne la salissons pas, et essayons de ne pas la faire couvrir de ruisseaux de sang. C'est ça la leçon fondamentale de Xi Jinping à la totalité de l'humanité. Il le dit et tous ses actes vont dans ce sens et il est porté par un pays qui partage tout à fait cette vision-là du monde et qui est en train de marcher devant pour montrer la voie à suivre à tous. Voilà. Donc merci encore pour ce beau livre. Merci Daniel. Merci Franck. Désolé d'avoir été si bref. Merci Jean. Merci Sidi. Et puis on va finir par une petite musique chinoise que j'avais prévue, qui est une ode à la mère patrie. C'est de jeunes soldats de l'armée populaire de libération qui chantent l'ode à la mère patrie. C'est pas trop guerrier. C'est, voilà, simplement, on est attaché à la Chine parce que, vu son âge, vu tout ce qu'elle a apporté, et vu ce qu'elle est en train d'apporter. Alors, ça va s'ajouter au papier, à la poudre, enfin, tout ce qu'elle a inventé, les caractères, etc. Et elle ajoute ça en plus, c'est-à-dire la façon de gérer avec un parti communiste un pays d'1,4 milliard d'habitants.